Le journal, c'est tout de suite avec vous, Olivier Sherman. Olivier, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Les alliances, les tractations en vue du second tour des élections municipales en France. Le premier tour hier a vu une poussée de la France Insoumise et du Rassemblement National. À Paris, gros revers pour Rachida Dati, arrivée largement deuxième derrière la liste conduite par le socialiste Emmanuel Grégoire. À Marseille, le maire sortant est au coude à coude avec le candidat du RN. Et nous irons à Lyon, voir que l'ancien patron de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, n'aura pas réussi son pari. Il obtient le même score que Grégory Doucet, maire sortant. En Iran, de nouvelles explosions dans la capitale Téhéran cette nuit et ce matin. Des artistes internationaux et de la diaspora se mobilisent en France pour soutenir la population iranienne. La liberté ou la prison et le déshonneur, l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, affronte l'une des échéances les plus décisives de sa vie avec l'ouverture cet après-midi du procès en appel de l'affaire du financement libyen qui lui a déjà valu une incarcération à l'automne. Et puis les conséquences du changement climatique. Un tiers de la population mondiale vit dans des zones où la chaleur limite fortement les activités du quotidien. C'est ce que révèle une étude scientifique. Le premier tour des élections municipales en France, donc, marqué par des poussées du Rassemblement National et de bons scores de la France Insoumise. À Paris, Emmanuel Grégoire, à la tête d'une alliance emmenée par le Parti Socialiste, est en tête avec 38% des voix, devançant de 13 points Rachida Dati, candidate Les Républicains et Modem. À Marseille, deux candidats se sont nettement détachés, le maire sortant de gauche, Benoît Payan, avec 36% des voix, et le candidat du Rassemblement National, Franck Alizio, juste derrière avec 35% des voix. Et parmi les résultats qui ont fait beaucoup réagir, car il y avait du suspense, Lyon, troisième ville du pays, alors que la figure du football de 76 ans, Jean-Michel Aulas, a été pendant plusieurs mois largement en tête des intentions de vote, jusqu'à 20 points d'écart. Finalement, son principal concurrent, le maire sortant écologiste, Grégory Doucet, a réussi à le rattraper. Les deux hommes sont au coude à coude. Victorien Vuillaume s'est rendu dans les deux QG de campagne.
Les premières estimations tombent à 21h, silence et visage fermé du côté des équipes de Jean-Michel Aulas qui s'isole dans une pièce. Et arrive le candidat.
Attendez, organisez-vous différemment.
Visiblement contrarié.
Par rapport au sondage, on peut être déçu, mais dans la réalité, c'est une victoire. C'est un premier match. Nous sommes en train de nous organiser.
Très peu de militants dans le QG, mais déjà un angle d'attaque répété à l'envi. La possible alliance entre Grégory Doucet et l'insoumise Anaïs Belloua-Sachérifi arrivait troisième.
Et nous allons essayer de faire comprendre tous les méfaits d'une alliance de cette nature entre Grégory Doucet et un parti soutenu par Mélenchon qui, dans notre propre ville, a tenu des propos absolument inacceptables.
À 20 minutes de tramway, ambiance beaucoup plus festive au QG du maire sortant. Cette véritable remontada est logique, argumente cette sympathisante vert à la main.
Passer un petit peu le chamboulement médiatique, voilà, Jean-Michel Aulas que les Lyonnais et les Lyonnaises aimaient bien pour des raisons liées au football. Les gens se sont juste dit, on va voter pour un maire en fait, et pas pour un patron d'entreprise.
Et sur son estrade, Grégory Doucet savoure, ce soir, dit-il, ce n'est pas un résultat, c'est une dynamique qui ne s'arrêtera pas.
Le choix pour le second tour du 22 mars devront donc être tranchés au plus tard demain à 18h. C'est le dernier délai pour déposer ces listes en préfecture. À ce moment-là, les têtes de liste ayant obtenu plus de 10% des voix hier devront dire si elles se maintiennent, fusionnent ou si elles se désistent. Au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce ce lundi avoir lancé des opérations terrestres limitées et ciblées contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Ces derniers jours, dit l'armée, des soldats israéliens de la 91e division ont commencé des opérations terrestres contre des bastions clés du Hezbollah dans le sud du pays. Le but, explique encore l'armée, est de renforcer la zone de défense avancée en territoire libanais le long de la frontière entre le nord d'Israël et le sud du Liban. Des explosions ont retenti aujourd'hui dans la capitale iranienne, quelques heures après qu'Israël a annoncé avoir mené des frappes de grande ampleur dans la nuit. Les déflagrations ont été entendues dans le centre de Téhéran. La ville a déjà été secouée par de fortes explosions durant la nuit. C'est dans ce contexte que des artistes internationaux et des membres de la diaspora iranienne se mobilisent en France. Ce dimanche soir, un concert création intitulé « Pour l'Iran » s'est tenu au New Morning à Paris, mêlant musique, lecture et projection en solidarité avec le peuple iranien. Carmen Lunsman y était.
Transformer la souffrance en un acte de combat culturel, c'est l'objectif premier de cette soirée pour l'Iran, co-organisée par la cinéaste iranienne Sepehdi Farsi.
Ce soir, nous disons que les bombes ne ramènent pas la démocratie, ni les balles, la légitimité à un régime qui n'en a aucune. Nous avons voulu montrer ce soir, ensemble, qu'on peut résister avec des mots, apporter la lumière, avec la musique.
J'ai dans le
Dans une ambiance de recueillement, quelques 500 personnes sont venues commémorer les morts et honorer la résistance du peuple iranien.
C'est une action pour nous qui habitent ici en France pour montrer notre colère par rapport à ce qui se passe en Iran.
C'est vrai qu'entendre un concert, c'est pas les bruits des bombardements.
Dans des moments de tourment, on est souvent en choc, on sait plus quoi faire, on dort plus, on réagit plus, mais il faut se regrouper.
Confirment les artistes de tous horizons, comme le musicien libanais Seyd Hamdan.
Donc nous, on est là en tant qu'artistes à se positionner avec les gens qui sont comme nous, qui veulent juste vivre librement, circuler, s'aimer, avoir un toit et vivre en sécurité. Ce qui est quelque chose de très difficile à accomplir dans nos régions en ce moment.
Pour l'Iran, en concert création collectif en solidarité avec le peuple iranien, c'était organisé donc hier soir au New Morning à Paris, à retrouver dimanche prochain dans Musique du Monde avec Laurence Alloir. Les bénéfices de cette soirée seront versés à l'association PANA pour aider les réfugiés iraniens. La visite de Donald Trump en Chine est-elle menacée? Pékin et Washington assurent rester en contact, mais le déplacement pourrait être repoussé. Le président américain évoque la guerre au Moyen-Orient et met la pression sur la Chine pour qu'elle aide à sécuriser le passage dans le stratégique Strait of Hormuz, un point clé pour le commerce mondial et surtout pour l'approvisionnement énergétique chinois. La guerre en Ukraine, nouvelle attaque sur Kiev, des explosions retenties ce matin en plein centre de la capitale ukrainienne. Les autorités parlent d'une attaque de drones russes en pleine journée, ce qui reste relativement rare. En France, Nicolas Sarkozy de retour devant la justice. Ouverture aujourd'hui du procès en appel des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président français avait été condamné en première instance à une peine de 5 ans de prison, puis incarcéré avant d'être remis en liberté 20 jours plus tard. Baptiste Coulon.
Lors du premier procès, les magistrats l'avaient admis. Les investigations n'ont pas établi la présence de fonds libyens dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais le simple fait d'avoir préparé un pacte corruptif pour recourir à un tel financement suffisait à le condamner pour association de malfaiteurs. Car selon les magistrats de première instance, l'ancien président est coupable d'avoir laissé deux de ses collaborateurs démarcher les autorités libyennes pour obtenir des financements en échange de contreparties financières et diplomatiques notamment. En 2005, Brice Hortefeux et Claude Guéant se rendent en Libye en dehors des circuits officiels. Ils y rencontrent Abdallah Senoussi, numéro 2 du régime, condamné en France pour l'attentat meurtrier contre l'avion français de la compagnie UTA. Des rencontres occultes sous l'autorité et pour le compte de Nicolas Sarkozy d'après le premier jugement, pour lesquelles aucun de ses deux collaborateurs n'avait donné d'explication crédible selon les magistrats. Depuis 14 ans, désormais, l'ancien président français clame son innocence dans ce dossier, ce qu'il aura à nouveau l'occasion de démontrer. Pendant 3 mois, il encourt jusqu'à 10 ans de prison.
Et pour terminer, le changement climatique ne fait pas que menacer notre avenir, il bouleverse déjà nos vies d'aujourd'hui. Actuellement, 2,7 milliards de personnes habitent dans des zones où la chaleur limite fortement les activités du quotidien. Et cet effet du réchauffement climatique touche même les jeunes en bonne santé. Lucille Gimbert.
Monter les escaliers ou faire le ménage à la maison, ces tâches semblent anodines, mais pour des centaines de millions de personnes dans de plus en plus de régions du monde, il est désormais dangereux pour la santé de réaliser ces activités physiques de base en plein jour et au plus fort de l'été. Même pour les moins de 40 ans en bonne santé. En cause, la hausse mondiale des températures, alimentée par le fait que nous brûlons du gaz, du charbon et du pétrole pour nos activités. Pour les plus âgés, qui ont plus de mal à transpirer et donc à refroidir leur corps, c'est plus difficile encore. D'après les scientifiques, en moyenne, les plus de 65 ans subissent aujourd'hui 900 heures par an où la chaleur limite fortement leurs activités extérieures durant la journée. C'était 600 heures en 1950. Et dans certaines régions tropicales et subtropicales, c'est même un quart de l'année. Une question géographique, mais aussi sociale. Les plus pauvres sont les plus touchés. Le défi est particulièrement important en Asie du Sud, Inde, Pakistan, Bangladesh, dans les pays du Golfe Persique et dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest.